Bonjour, je vais vous parler cette année des éléments de l'architecture. Ça fait plusieurs années que je fais ce cours à l'Arsenal. Les premiers temps, nous avions vu les concepts, des concepts contemporains comme la fragmentation, la question du milieu. La question du milieu. Et ensuite, nous avions abordé les architectes comme des auteurs, pas simplement comme des prestataires de services. Ensuite, on avait abordé la question des actes qui sont permis par l'architecture. Et on avait vu que enseigner, dormir, manger, tout ça, c'était possible, c'était rendu possible par l'architecture. Et là, cette année, on va revenir sur les éléments qui composent l'édifice. Mais cette façon de revenir sur les éléments qui composent l'édifice, vous allez très vite comprendre qu'elle n'a rien de fonctionnel. Puisqu'en fait, ces éléments, ils nous permettent d'interroger l'architecture. Et on ne va pas les considérer comme des éléments techniques, mais au contraire, comme des prothèses. Vous voyez, comme des prothèses qui nous permettent d'établir des relations inédites avec le monde. Alors, ce semestre, cette année, nous allons voir des éléments comme l'escalier aujourd'hui, l'ascenseur demain, ensuite le tuyau, le rideau. Vous voyez, ce sont des éléments qui peuvent paraître totalement inessentiels. Qui imaginerait que le tuyau, ce soit un élément important de l'architecture? Et pourtant. Déjà, l'escalier, ce n'est pas un élément fonctionnel qui nous permet de passer d'un étage à l'autre. Non, pas du tout. C'est quelque chose qui nous permet de nous élever. C'est ce qu'on va voir aujourd'hui. L'ascenseur, c'est une autre forme d'élévation, qui est plus proche de l'assomption, voyez, comme celle que l'on voit dans les églises baroques, où on voit la Vierge qui s'élève comme ça, donc sans besoin de marche ni de rien dans les airs, pour monter vivante dans les cieux. Après, on interrogera le tuyau, mais le tuyau, c'est pareil, c'est quelque chose qui n'a rien de fonctionnel. C'est quelque chose aussi qui renvoie, vous voyez, comme l'escalier qui nous permet de nous élever, comme l'escalier qui répète, si vous voulez, ce moment premier de l'humanité où l'homme, au lieu d'être à quatre pattes ou de ramper par terre, il se lève sur ses pattes de derrière. Vous voyez. Et l'escalier, c'est ce qui va, comme une prothèse, vous voyez, qui va pousser l'homme toujours plus haut, toujours plus loin. Et le tuyau, lui, il va aussi nous rappeler une origine, celle où nous vivions dans une architecture de chair connectée à notre corps, un corps matriciel par un ombilique. Voilà. Et enfin, le rideau, là aussi, ce n'est pas simplement un élément de mobilier. Non, c'est vraiment donc un élément d'architecture, puisque c'est un élément aussi, voyez, qui témoigne d'une origine possible de l'architecture, parce que dans le rideau, il y a la tente qui fait retour. On est dans un bâtiment en pierre, on est dans un bâtiment de béton, mais on a besoin d'être entouré de voiles, de tapisseries. Et donc, parce que peut-être, donc avant la grotte, avant l'immeuble de pierre ou de béton ou de métal, eh bien, il y a la tente. Voilà, donc c'est une plongée, si vous voulez, chaque fois très très différente dans l'origine de l'architecture que je vais vous proposer donc pendant ces quatre séances. Et puis pendant les séances qui vont suivre. Voilà, je commence bien sûr par la peinture, parce que les peintres, et surtout le Tintoret, ce sont vraiment de vrais penseurs. Voilà. Là, il a peint la présentation de Marie au temple, Hein, c'est un thème, disons, relativement fréquent dans la peinture renaissance, dans la peinture vénitienne, dans la peinture baroque. Mais justement, il le présente d'une certaine façon. Et ce que je trouve vraiment complètement fascinant dans cette toile, c'est que, voilà, on a quelque part, comme d'ailleurs chez les architectes dont je parle, vous voyez, il fait la synthèse, quelque part, de toute l'histoire de l'architecture avant lui. Parce qu'il y a quelque chose de la peinture gothique, si vous voulez. Puisqu'on peut dire que Marie, vous voyez, hein, c'est le personnage qui est à côté de l'obélisque, hein, et donc qui se dresse, vous voyez, comme je le disais tout à l'heure, vous voyez, l'escalier, hein, comme une prothèse qui permet de te rappeler, hein, que tu vis debout. Hein, voilà. Donc, à la fois, donc, elle est dressée. Et puis ensuite, vous voyez, on voit que Marie, elle est au premier plan, et après on voit qu'il y a d'autres mères à l'enfant, hein, qui esquissent, voilà, comme dans la peinture médiévale, vous voyez, le mouvement, hein, donc d'élévation de Marie, hein, sur l'escalier. Et en plus, vous voyez, ces différents groupes de mères à l'enfant. Donc, il dessine, hein, donc une hélice, hein, sur cet escalier. Voilà. Et donc, comme je vous disais, vous voyez, l'important, hein, c'est dans l'escalier, hein, c'est de s'élever, hein, c'est de pouvoir monter. C'est pas tant d'aller d'un endroit vers un autre, d'un point A vers un point B, hein, mais c'est de se dresser, voilà, vous voyez. Hein, c'est de s'élever. Hein, c'est aussi quelque part de se mettre en danger. Alors, je me rappelle, il y a quelques années, j'avais fait ici un cours sur le mur, et puis je vous disais que le mur, ça sert à protéger, hein, que peut-être l'architecture, essentiellement, eh bien, ça sert à protéger, hein, les corps extrêmement fragiles. Mais en fait, je pourrais dire aujourd'hui le discours complètement inverse et dire que non, l'architecture, ça ne sert absolument pas à ça, ça ne sert pas à protéger, mais au contraire, hein, ça sert à élever, hein, ça sert à exposer, hein, les corps. Et ça sert aussi à rappeler, hein, donc comme je l'ai déjà dit, hein, aux hommes, hein, qui se tiennent debout, ça sert quelque part à constamment, voyez, renouveler, hein, disons, l'acte fondamental de l'humanité, hein, la surrection humaine. Et tout, voyez, dans cette toile, hein, notamment, voyez, l'obélisque dans le fond, hein, qui est vraiment dans l'axe de la perspective, hein, et qui explique quelque part que tout ce cheminement, hein, de Marie, ce n'est pas avoir les prêtres du temple, pas du tout, voyez, hein, c'est de simplement se tenir droite, hein, c'est s'élever. Alors, pour commencer, voilà, parlons de la tour de Babel, hein. Puisque, enfin, comme vous le savez, ou si vous ne le savez pas, je vous l'apprends, le grand philosophe, là, Hegel, hein, dont l'esthétique, il se pose la question de l'origine de l'architecture, hein. Je dis, voilà, l'origine, l'architecture, ça commence quand, voilà? Est-ce que ça commence avec les tombeaux, voilà, comme les pyramides? Elle dit, non, c'est pas le tombeau. Parce que le tombeau, si vous voulez, c'est un bâtiment qui a une fonction, vous voyez, hein, puisque la fonction du tombeau, eh bien, qui lui est extérieure, vous voyez, il est là pour accueillir les morts, voilà. Et lui, pour nommer le commencement, il cherche au contraire le commencement de l'architecture. Il cherche au contraire, si vous voulez, hein, comme il le dit, voyez, un monument où l'architecture est à la fois le but, voilà, hein, et le contenu. Hein. Et donc il choisit, voilà, la tour de Babel, hein, puisque la tour de Babel, donc, c'est un gigantesque escalier, hein, qui permet de monter au ciel et qui renvoie, bien sûr, comme je vous l'ai dit, voyez, à ce phénomène, donc, de la résurrection humaine. Dans la tour de Babel, effectivement, donc, le but et le contenu de l'œuvre correspondent. Il n'y a pas de séparation hein, comme dans le tombeau. Alors regardons hein, ces tours de Babel, hein, celle de Bruegel, par exemple. Hein, donc on la voit, donc on voit la rampe ou l'escalier hein, qui entoure en hélice le bâtiment. Et en fait, effectivement, c'est un bâtiment qui est constamment aussi en train de se construire hein, sur lui-même. Et tout ça, effectivement, dans le but hein, de l'élévation, dans le but, voilà, d'affirmer hein, donc, l'élévation primale, hein, celle justement par laquelle hein, l'homme se dresse vers le ciel, hein, sur ses pattes de derrière. Et on voit, vous voyez, que toute la structure du bâtiment, eh bien, elle ne sert qu'à ça. Hein. La tour, eh bien, elle n'a pas d'autre fonction hein, que de s'élever. Vous voyez, hein. Donc, Et quelque part, son édification, vous voyez, eh bien, ça se superpose donc, à la volonté des hommes vers le ciel qu'elle prétend assurer. Voilà, d'autres éléments, d'autres tours de Babel. Enfin, c'est vrai que c'est un sujet très prisé donc, au XVIe siècle, hein, notamment dans la peinture flamande. Là, c'est une autre tour de Babel de Peter Bruegel, l'Ancien. Là, encore une. Hein, c'est intéressant de toutes les voir parce qu'elles sont toutes... Il faut bien les avoir en tête hein, pour la suite du cours. Et là, c'est... Vous allez me dire, mais qu'est-ce qu'elle vient foutre là, cette image hein, c'est l'image du Colisée. Bon, je l'ai mise pour deux raisons. D'abord parce que le Colisée, c'est le modèle, vous voyez, hein, pour tous ces peintres. Parce que quand ils sont posés, quand ils sont creusés le citron pour savoir comment construire un grand bâtiment de l'Antiquité, eh bien, bien sûr, le seul bâtiment très grand qu'ils avaient à leur disposition, c'était le Colisée. Mais aussi... On va revenir là-dessus plus tard. Si vous voulez, le Colisée, effectivement, c'est une tour. Voilà, on peut le voir comme ça, comme une sorte de tour, mais elle est lisse. Et par contre, les escaliers, voilà, au lieu d'être à la périphérie, eh bien, ce sont les gradins hein, qui descendent vers l'arène. Et donc, enfin, on reviendra là-dessus, mais voilà, il y a des escaliers hein, dans le Colisée, et ces escaliers... On va bien sûr revenir là-dessus. Ils permettent, vous voyez, de voir. Hein. On monte. Là, on monte les gradins. Et puis, on voit. Et bien sûr, où on se voit. Vous voyez, on se voit, donc, dévoré par les lions. On se voit, vous voyez, tué à coups d'épée. Et donc, voilà, il y a cette idée. Hein, non pas, vous voyez, à la fois, dans la tour de Babel, peut-être voir le ciel, monter au ciel, voir le lointain. Et dans le Colisée, hein, donc, les choses s'inversent. Et au lieu de voir le lointain, eh bien, on se voit hein, soi-même. Voilà, pensez l'escalier en soi. Essayez de bien le regarder. Voilà, je répète, hein, non pas comme un élément fonctionnel, un équipement hein, des bâtiments qui permet de monter d'un étage à l'autre, mais vraiment le regarder. Et ça, c'est un très beau projet de Didier Faustino, hein, Stairway to Heaven, à partir de la chanson, bien sûr, de Led Zeppelin, qui parle aussi donc, d'un escalier, hein, d'un escalier qui monte au ciel. Et donc, son idée, c'était effectivement de faire un bâtiment qui soit uniquement un escalier. Donc, c'est comme une cage d'escalier, pratiquement, si vous voulez. Voilà, c'est deux volets droites ou trois volets. Il y a trois volets droites, comme ça, voilà, hein, qui se tiennent elles-mêmes. Voilà, l'escalier, il n'est pas porté. Il se tient lui-même, d'ailleurs, comme la tour de Babel, même si c'est notre technologie, parce que là, c'est du béton, c'est des porte-à-faux, c'est des consoles, c'est des poutres. Et ensuite, vous voyez, cet escalier, donc, il aboutit un mini terrain de basket avec un panier. Et ce terrain de basket, quand on a... Voilà, c'est-à-dire que quand le public ou les gens voilà, hein, prennent l'escalier pour s'élever, voilà, ils finissent en haut par sauter, vous voyez. Et là, ça marque voilà, parfaitement hein, donc ce pourquoi est fait hein, l'escalier. D'abord, on monte des marches. Et après, on arrive donc dans une cage recouverte de grillages et on saute. On saute donc pour s'élever encore plus haut hein, vers le ciel. Voilà. Après, il y a autre chose, bien sûr, hein, c'est cette idée-là de renverser, hein, la relation de sujétition de l'escalier aux espaces services, c'est-à-dire essayer de comprendre qu'on peut... Vous voyez, quand vous allez rentrer chez vous tout à l'heure, voilà, essayez d'imaginer que, justement, hein, l'escalier, c'est pas un simple serviteur, voilà, qui va vous permettre de monter dans votre appartement ou de monter de votre salon à votre chambre, hein, mais au contraire, hein, c'est vraiment une pièce maîtresse, voilà, une pièce essentielle, donc, de votre habitation, et qui justement, voilà, vous dit bien que l'habitation, elle n'est pas là pour vous protéger, hein, mais au contraire, hein, pour vous tenir éveillé, hein, pour au contraire, hein, vous permettre de regarder, donc, au loin, hein, de vous élever. Ça, c'est un exercice que j'avais fait faire il y a 2 ans à l'école de Paris-Val-de-Seine où j'enseigne. Hein, j'avais demandé donc aux étudiants de réfléchir justement sur la place de l'escalier dans la maison. Et notamment, là, ce jeune étudiant, Clément Comte des Floris, il avait fait une proposition vraiment totalement étonnante. C'est-à-dire que, voilà, plutôt que de mettre l'escalier, si vous voulez, à l'intérieur de sa maison, eh bien, il en avait fait, c'était à la fois une terrasse, un solarium et une façade. Et donc, cette terrasse, ce solarium et cette façade sur laquelle on pouvait s'asseoir, contempler le paysage, parler, elle était nourrie, hein, donc, par les chambres, hein, donc, qui venaient donc en porte-à-faux, hein, se greffer sur cette pente, vous voyez, qui était portée par des poteaux. Donc, vous voyez, imaginez, voilà, quand on est étudiant en architecture, quand on commence des études d'architecture, hein, que l'escalier, hein, ce n'est pas l'équipement qu'on rajoute à la fin, mais au contraire, hein, c'est absolument essentiel. Parce que je le répète, et je vais le répéter 1000 fois, hein, l'architecture, aujourd'hui, eh bien, on ne va pas la voir comme une protection, hein, mais on va la voir comme une prothèse, hein, qui favorise l'élévation. Voilà, notre exemple, même exercice, hein, donc, des escaliers, voilà, qui se croisent et qui se portent, vous voyez, en se croisant. Là, il n'y a pas de colonne. Et qui aboutissent donc à des balcons, voilà, sur lesquels on pourrait dormir ou effectuer tous les actes fondamentaux qui sont pris en charge par une habitation. Là, ce n'est pas un étudiant, c'est un architecte. C'est Patrice Mottini pour un petit projet à Rouen, dans une école d'architecture, dans l'école d'architecture de Normandie, à Rouen. Et ce qu'il a fait, c'est effectivement, il a réfléchi, vous voyez, à l'escalier, mais quelque part aussi à l'éducation, vous voyez, hein, éduquer, voilà, hein, c'est aussi effectivement, voilà, s'élever. Hein. Et donc, il a mis au cœur de son bâtiment, vous voyez, l'escalier. Ce qu'on voit là, c'est la cage en béton, hein, qui renferme l'escalier, et on va le voir tout à l'heure, enfin, je ne sais pas si on va le voir parce que c'est difficile à montrer, mais en fait, l'escalier, il a simplement 2 volets, vous voyez, il a une volée comme ça en béton qui monte dans un sens, après il y a un palier, et pour les derniers étages, il y a des volets en clébotis métallique qui montent pour les desservir, vous voyez. Et donc, voilà, c'est ça. Hein, c'est un lieu d'enseignement, hein, et donc, c'est un lieu, voilà, où on s'élève. Et les différents espaces, quelque part, vous voyez, ils ne sont pas desservis, hein, par l'escalier, mais au contraire, voilà, hein, ils viennent le servir, hein, ils viennent se mettre à son service. Voilà, l'escalier, hein, qui monte, finalement, extrêmement monumental, vous voyez, parce qu'il prend la totalité de la cage, c'est une volée qui prend la totalité de la cage. Voilà, c'est le schéma que je vous indiquais tout à l'heure. Vous voyez, d'abord un escalier en béton, et après, donc, sur une demi-trame, l'escalier métallique en caillebotis qui permet de desservir les autres étages. Et ensuite, vous voyez, la cage d'escalier, hein, qui porte à bout de bras, voilà, toutes les salles qui viennent donc ensuite le nourrir. Voilà, donc là, on voit la structure. Donc, la cage en béton, vous voyez, les consoles en métal, hein, sur lesquelles vont venir, à bout de bras, hein, se fixer les salles, les salles totalement ouvertes, comme les balcons de mon étudiante tout à l'heure, totalement ouvertes sur le paysage, ou une salle des diplômes, vous voyez, totalement fermée, mais juste ouverte par une faille sur l'escalier pour pouvoir être éclairée, vous voyez, par réflexion sur le mur de béton. Voilà, s'élever, s'élever. Voilà. Bien sûr, quand on parle d'escalier, on ne peut pas ne pas parler de l'escalier à double vis de Chambord. C'est vrai, parce que c'est, tout le monde en parle. Et c'est vrai que c'est un élément voilà, totalement fascinant. Parce que, d'abord, parce que c'est un escalier hélicoïdal. Et ensuite, parce qu'il a deux volets. Donc, il est à double hélice. Vous voyez, voilà. Comme on le voit sur la figure ci-jointe. Et cet escalier à double hélice, bien sûr, le plan du donjon du château de Chambord eh bien, s'organise par rapport à lui. Ce plan, il est complètement fou, parce que, vous voyez, il est à la fois effectivement, comme beaucoup l'ont remarqué, il est à la fois totalement gothique, puisqu'il est cantonné, c'est un plan carré qui est cantonné par des tours rondes, mais en même temps, il est totalement renaissance, parce que si on regarde bien, vous voyez, on peut voir un plan avec 9 carrés, donc les 5 carrés centraux formant une croix qui renvoie, vous voyez, donc à beaucoup de bâtiments centrés de la Renaissance, les églises ou la villa rotonde de Palladio. Mais cet escalier, en fait, il y avait sans doute avant lui un autre projet, voilà, beaucoup plus fort, beaucoup plus puissant, beaucoup plus radical, beaucoup plus abstrait. C'est le projet qu'on attribue donc à Léonard de Vinci, qui a complètement disparu, mais que l'on retrouve donc dans les 4 livres de l'architecture d'Andrea Palladio, où effectivement il nous montre pour Chambord un escalier central. Mais cet escalier central, c'est pas comme nous l'avons vu une tour qui vient donc percer le centre de la croix, mais c'est au contraire donc un escalier totalement circulaire qui occupe donc complètement la case centrale. Et cet escalier donc il a quatre volets, et donc chaque volet voilà va ainsi desservir, vous voyez, donc un des bras de la croix. Donc, vous voyez, il y a une conception géométrique qui est basée justement sur l'escalier, avec des volets qui vont chaque fois donc desservir une des ailes de la croix. Vous voyez, comme on le voit ici sur le plan, donc un escalier central, vous voyez, qui occupe totalement la case centrale. Qui a des volets, c'est un escalier à quadruple révolution, et quand on part du bas, chaque volet donc dessert, voyez, un des bras de la croix centrale. Voilà, on n'a pas retrouvé bien sûr le dessin de Léonard de Vinci. Ça c'est un dessin qui ne représente pas l'escalier qui a été dessiné par Palladio. C'est un escalier effectivement à 4 volets, mais il est sur un plan carré. Mais ce qui est intéressant surtout, c'est que voilà, il faut le rapprocher, voyez, cet escalier, par tous les autres, avec tous les autres dessins de Léonard de Vinci, notamment toutes ces réflexions sur l'hélice. Voyez, ce sont des réflexions finalement qui nous sont quand même assez éloignées, enfin, qui sont à la fois présentes et éloignées aujourd'hui. Présentes parce que c'est vrai que le discours, quand on parle d'architecture en général, dans la presse ou n'importe quoi, on ne parle pas de ça. Éloigné, parce que quand on parle de l'architecture dans la presse en général, on ne parle pas de ça. Et actuel, parce que bien sûr, n'importe quel architecte digne de ce nom, quand il fait un bâtiment, il comprend très bien qu'il y a des règles, qu'il y a une géométrie, et peut-être il rentre totalement en phase. Voilà, avec le projet de Léonard, qui consiste effectivement donc à faire en sorte que l'escalier, comme je l'ai dit, ce soit l'élément déterminant de la construction, et qui permette justement une sorte de tournoiement, voyez, donc général du bâtiment. Voilà, ça, c'est les autres esquisses de Léonard de Vinci, les autres réflexions, les autres études. Hein. Il a énormément réfléchi, bien sûr, hein, sur les systèmes d'irrigation, en commentant la vis d'Archimède à l'infini. Et puis, bien sûr, vous voyez, donc, il a réfléchi ensuite à une vis, non pas une vis d'Archimède qui permet de monter les eaux d'un fleuve à une certaine hauteur, mais carrément donc une vis aérienne qui permet de se déplacer non pas dans l'eau, mais dans l'air, hein, et d'assurer donc l'élévation humaine. Donc, il y a toute cette idée, voyez, donc, hein, à travers ces dessins et à travers cette architecture, vous voyez, d'élever. L'homme le plus haut possible. Et comme le dit, excusez-moi, je fais souvent référence à lui, c'est évident, mais comme le dit voilà, Peter Sloterdijk, hein, quand il parle de l'homme, hein, ce qui fait sa force, justement, par rapport aux autres animaux, hein, parce que les autres animaux, en fait, ils sont toujours à la recherche de leur nourriture, tandis que l'homme, lui, il arrive justement à se mettre debout, à s'élever, et puis à regarder voilà, hein, autour de lui, mais d'une manière, disons, totalement abstraite, hein, le paysage. Et c'est un petit peu tout ça hein, qu'on va voir donc aujourd'hui. Maintenant, un autre aspect de l'escalier, et c'est à partir de l'école de danse de Christian de Port-Zompard. C'est un projet dont j'ai beaucoup parlé dans les autres cours que j'ai fait ici. Mais là, je voudrais en parler d'une autre manière, parce qu'effectivement, il y a un grand escalier. Il y a un grand escalier hélicoïdal. Il est même énorme, vous voyez. Hein, donc, on le voit ici. Hein, donc, c'est un escalier hélicoïdal qui dessert des coursives circulaires. Et les coursives circulaires, elles permettent l'accès donc, aux salles de danse. Voilà. On voit le plan, vous voyez, à chaque étage, il y a quatre salles de danse. Hein, donc, une ronde. On revoit toujours le plan de Chambord qui revient. C'est ça qui est très intéressant, d'ailleurs. Et c'est vrai que ce plan de Chambord, c'est ça qui est intéressant, c'est qu'on le voit finalement. Enfin, j'aurais pu parler d'autres projets, notamment un projet de l'architecte Péroudin, un projet de maison qu'il a fait à Montélimar. Et on voit que cette idée de plan de Chambord, de plan en croix, avec l'escalier au centre, c'est quelque chose qui est presque obsédant dans l'architecture. Et on la retrouve effectivement voilà, à la Renaissance, et on la retrouve, on la retrouve donc encore aujourd'hui, voilà, là, hein, chez Port-Zompard, et beaucoup plus récemment, hein, chez Gilles Péroudin, bien que je ne pourrais pas vous faire voir son bâtiment. Voilà, l'escalier hélicoïdal est au centre. Et comme on l'a vu tout à l'heure, voyez, on pourrait presque dire hein, que les salles de danse, c'est pas quelque chose, c'est pas des espaces servis. Non, c'est pas ça. La salle de danse, elle est là pour t'apprendre à monter l'escalier. Parce que l'escalier, excusez-moi, c'est pas anodin, voyez. Bon, c'est vrai qu'on apprend à marcher, d'accord, très bien, mais après, on apprend à monter l'escalier. Et quelque part, vous voyez, il y a quelque part dans l'escalier aussi, vous voyez, l'idée d'un dressage, vous voyez, l'idée de, disons, d'un travail sur le corps, d'une assaise, vous voyez. Hein, voilà, parce que pour monter l'escalier, voilà, c'est pas, il faut l'apprendre, vous voyez, c'est pas, il faut un apprentissage, voilà. Et quelque part aussi, il faut un apprentissage qui vous marque à vie. Voyez, hein, parce qu'une fois que vous avez appris, vous saurez tout le temps monter un escalier. Et c'est aussi quelque chose donc qui chorégraphie, hein, qui ritualise hein, donc vos gestes. Voilà, là c'est la salle de danse hein, où on fait des exercices d'entraînement. Voilà. Et ensuite c'est l'escalier qui est beaucoup plus grand hein, que toutes les salles de danse. Où là, effectivement, donc, on monte. Hein. On est donc avec un corps voilà, totalement mécanisé, dressé, chorégraphié hein, pour s'élever. Voilà, hein, voilà. Ça, c'est vous, quelque part, voyez. Quand vous montez l'escalier avec toute la culture de la montée hein, que vous avez accumulée hein, depuis votre plus tendre enfance. Voilà, il faut s'élever, il faut s'élever. Et pour parler, pour que la parole porte, bon, il faut avant le microphone, avant la caméra, avant Internet, hein, eh bien, il faut pouvoir se dresser voilà, au-dessus d'un public. Et ça, bien sûr, j'ai choisi. Bon, il y a énormément d'estrades, énormément de tribunes, mais j'ai choisi de parler donc des chairs et des minrabes. donc à la fois la culture chrétienne et la culture musulmane, hein, parce qu'effectivement, voyez, il y a cette idée voilà, de s'élever hein, pour parler. Ça, c'est la chair du grand architecte Charles de Wailly, donc l'auteur de l'Odéon à Paris. Hein, c'est la chair qu'il a fait, qu'il a réalisé hein, pour Saint-Sulpice. Et vous voyez, là aussi, ça nous informe, et peut-être on reviendra là-dessus, c'est que l'escalier, c'est à la fois un escalier, mais c'est aussi un pont, vous voyez, hein, qui porte la chair, puisqu'effectivement, les escaliers prennent appui hein, sur les piliers de Saint-Sulpice hein, pour élever la chair elle-même hein, au-dessus de la foule. Voilà, on voit la construction, donc l'escalier hein, qui permet donc de s'exprimer. Voilà. Alors, d'abord, on s'élève, on regarde autour de soi, et puis ensuite, eh bien, on parle. On parle au public assemblé autour de soi. Et pour cela, eh bien, avant le micro, avant l'écran, il faut l'escalier. Autre exemple, donc encore plus pertinent, hein, c'est la salle de prière de la mosquée du Régent à Shiraz. Bon, c'est une salle de prière, donc il y a une cinquantaine de colonnes qui sont torsadées avec un plafond voûté. Et vous voyez, au fond, donc, on voit un escalier. Voilà. Un escalier qui ne mène à rien. Hein. Et cet escalier qui ne mène à rien, donc on le voit, il s'appelle le minbar. Et cet escalier, effectivement, il permet, vous voyez, au mollah de dire donc devant les fidèles hein, la prière du vendredi hein, pratiquement toutes les mosquées. Et ce qui est intéressant dans cet escalier, contrairement effectivement à la plupart des escaliers des chairs, c'est que vous voyez, il n'y a pas de protection, il n'y a pas de garde-corps. Hein. Donc, ce qui veut dire que, voilà, le mollah hein, qui quelque part va parler, eh bien, il va se mettre en danger. Hein. Voilà, il va se mettre en danger, et donc il va s'exposer. Voilà, hein. Il va peut-être tomber. Hein. Voilà. Bon, autre exemple encore plus fascinant, c'est le ninbar de la mosquée du Shah. Hein, Ispahan. Vous voyez, c'est vraiment simplement un escalier, voilà, posé contre un mur, voilà, avec 14 marches hein, que le mollah monte hein, et sur lequel il s'assoit hein, pour enfin dire la prière. Vous voyez, il faut bien avoir en tête maintenant, vous voyez que voilà, l'escalier, hein, ça expose, ça met en danger, ça dresse, vous voyez, hein, ça inscrit hein, dans notre cerveau, vous voyez, certaines chorégraphies hein, que l'on oublie par la suite pratiquement jamais. Hein, et tout ça, je le répète, hein, tout ça pour te dire que tu t'élèveras tout le temps. Tu ne resteras pas avachi, prostré, comme un serpent. Tu ne resteras pas à quatre pattes comme un chien. Non, tu te dresseras et tu regarderas loin. Où tu te regarderas toi-même. Puisque bien sûr, le théâtre d'Épidaure, c'est un escalier. Oui. Voilà. C'est un escalier qui permet de se regarder. Parce que qu'est-ce qu'on joue dans le théâtre d'Épidaure, où tu es obligé d'aller, hein, et où tu dois assister donc, à ces cérémonies qui sont aussi des cérémonies religieuses, puisqu'elles ont à voir avec la fondation de la cité. Tu dois te rappeler hein, qu'il ne faut pas sombrer donc, dans la démesure et qu'il faut rester dans l'ordre. Et tu vas voir la tragédie d'Œdipe, oui, hein, assis hein, sur les marches de cet escalier. Voilà. Hein, Œdipe, dont Freud hein, a expliqué hein, que c'était donc, quelque chose qui construisait hein, totalement hein, notre psyché. Hein. Donc, si vous voulez, disons, l'élément clé, peut-être, hein, de la psychanalyse depuis les Grecs, hein, ben, ce n'est pas le divan, vous voyez, hein, c'est l'escalier hein, que l'on prend hein, pour se regarder soi-même hein, du haut des marches. Voilà, l'escalier. Hein, les marches, voilà. Hein, un hémicycle, vous voyez, donc concentré, voilà. autour de la scène. Voilà, au plus moderne, voilà, notre escalier, hein, c'est celui de Niemeyer pour le théâtre de plein air de Tripoli, au Liban, un bâtiment qui n'a pratiquement jamais fonctionné, puisque c'était fait il y a, oui, dans les années 70, avant toutes les guerres. Et c'était l'idée, effectivement, de donner à la ville musulmane du Liban donc, un grand équipement culturel. Et donc, il a construit, effectivement, donc, un escalier, voilà, presque plat, hein, sur lesquels les gens pouvaient s'asseoir pour regarder la scène. Et tout ça, effectivement, ça devait flotter, vous voyez, enfin, on le voit. C'est un bâtiment qui est absolument incandescent parce qu'il est à la fois pas vraiment achevé et puis il est déjà détruit. Et en fait, le sol, vous voyez, autour de la scène, hein, qui est recouverte par une sorte d'abasson, eh bien, ce sol, il devait être couvert d'eau, vous voyez. Et donc, effectivement, le théâtre, l'escalier, il devait flotter, la scène flotter, hein, pour justement que les gens puissent se regarder eux-mêmes. Voilà, bien sûr, l'escalier, ça, c'est être protégé, parce que c'est vrai que c'est une dimension aussi, que peut-être un tout petit peu bachelardienne, c'est vrai, mais qui est extrêmement importante dans l'escalier. Parce qu'à la fois, ça nous expose, mais à la fois aussi, ça nous protège. Hein, c'est-à-dire que ça nous expose, parce que, voilà, on a vu, voilà, on peut très bien avoir des marches sans garde-corps, hein, dans lesquelles on peut tomber. Ça nous arrache, de toute façon, hein, au confort, à la prostation, mais en même temps, vous voyez, donc, sous l'escalier, on est protégé. Et ça, je dis ça parce que c'est presque un souvenir d'enfance. J'ai jamais pardonné à mon grand-père d'avoir mis des toilettes sous l'escalier de sa maison. Pour moi, ça a toujours été... Il avait fait des études d'architecture, mais j'ai toujours considéré ça comme un crime. Hein, c'était l'escalier, voilà, où on pouvait se protéger, dans lequel on pouvait se cacher. Il était toujours sombre, jamais éclairé. Et effectivement, cet espace sombre, voilà, c'est protégé, extrêmement protégé. C'est ce qui fait aussi la grandeur, hein, des théâtres de Valentin, de Fabre et Perrottet. Là, c'est le théâtre de la ville. Hein. Effectivement, il y avait la boîte, disons, éclectique de Daviau, et ils ont cassé le théâtre à l'italienne, et ils ont descendu un grand escalier, hein, vers la Seine. Et effectivement, donc, ensuite, les foyers, les lieux de rassemblement, hein, ça se passe sous la salle, sous l'amphithéâtre, sous l'escalier. Rembrandt, voilà. Dessous de l'escalier. C'est là aussi où on peut méditer, voilà, effectivement. Il y a deux aspects de l'escalier, effectivement. Il y a l'escalier qui t'expose et l'escalier qui te protège. C'est l'escalier que j'avais fait donc, dans une maison de campagne où il n'y avait pas de cheminée. Et donc j'avais fait un escalier totémique. Et j'avais fait un escalier surtout pour que cette petite fille puisse être protégée. Voilà, mais l'escalier, ça peut être descendu. Je ne voudrais pas rentrer trop dans les descentes aux enfers. Je ne voudrais pas d'ailleurs trop commenter, mais juste revoir avec vous, voyez, ces images de Eisenstein, le cuirassé Potemkin, la scène la plus connue, hein, celle où les troupes du tsar, hein, descendent, hein, pour tuer, hein, les grévistes d'Odessa. Et donc on voit, vous voyez, implacablement, les militaires avec leurs bottes, hein, qui descendent avec leurs armes et qui tirent, hein, sur des gens qui cherchent à monter, à s'émanciper. Hein, donc une femme avec son enfant, hein, qui sera tuée. Voilà, mais il y a une fonction de liaison de l'escalier, bien sûr. On ne peut pas ne pas l'évoquer. C'est évident que... On prend l'escalier et puis on passe, hein, d'un espace à l'autre. Voilà, mais les espaces, voilà, ce sont des espaces, mais c'est plus que des espaces. Hein, ce sont des ambiances, ce sont des milieux, hein, ce sont des mondes. Hein, et donc, quand on prend un escalier, voilà, on bascule, voyez, d'un monde à l'autre. L'escalier, c'est vrai qu'il a aussi la fonction d'une porte, hein, Voilà. Et, mais quelque part, et aussi ce qui est intéressant dans l'escalier, c'est que, vous voyez, il permet, quand on passe d'un monde à l'autre, toute une transformation, hein, tout un travail sur soi, hein, parce que c'est vraiment donc une sorte de cheminement initiatique, hein, qui nous permet de passer d'un monde à l'autre. C'est vrai que dans tous les immeubles parisiens du XIXe siècle, c'est vrai que l'escalier, hein, il est vraiment central, hein, il est couvert de tapis, et puis c'est l'élément, hein, qui permet de passer donc de la rue, de l'espace public, des bruits de la rue, du monde extérieur, voilà, à l'intimité, voilà, vous voyez, à aller chez soi. Voilà, c'est surtout celui qui a eu bien conscience de ça, je trouve, c'est surtout Oscar Niemeyer, hein, notamment au palais d'Itamaraty, mais je crois qu'il a pratiquement toujours fait ça pour lui. Là. C'est aussi, donc, je pense, entre autres, hein, un grand penseur de l'escalier. Voilà, parce que quand on rentre dans le palais Itamaraty, donc, on traverse d'abord une pièce d'eau, et puis ensuite, il y a le bâtiment est carré, et ensuite, il y a un grand hall triangulaire avec de part et d'autre des bureaux. Et quand on rentre dans ce hall, eh bien, l'espace il est dominé, voyez, par la spirale de l'escalier. Voilà, c'est toujours pareil, comme si l'escalier, c'était une des significations les plus importantes de l'habité. D'ailleurs, je me rappelle, j'avais été dans une ville, je ne sais pas où, dans le Minas Gerais, à Diamantina, dans un hôtel qu'il avait réalisé. Et dans ma chambre, en fait, il n'y avait pratiquement qu'un escalier, puisque on rentrait, il y avait des fauteuils, et puis un gigantesque escalier très sculptural. Et puis après, l'escalier très sculptural, il permettait d'aller dans la chambre proprement dite, un tout petit lit, hein, comme si effectivement le plus important, hein, de l'habitation, c'était même de la chambre d'hôtel, hein, c'était pas le lit, c'est pas ça du tout, t'as rien compris. Non, c'était l'escalier, quoi. Le truc important, c'était de pouvoir monter. Voilà, donc l'escalier, hein, qui dessert deux espaces, un escalier très sculptural, très monumental, très expressif, qui permet aussi de mettre en mouvement, vous voyez, complètement l'espace, hein, puisqu'il est hélicoïdal, et on tourne, hein, jusqu'au vertige, donc pour monter du rez-de-chaussée jusqu'à la mezzanine du premier étage. Et bien sûr, donc il n'y a pas de garde-corps, hein, puisqu'on est exposé, on est sorti de sa torpeur, vous voyez. On est tous les sens en éveil, et puis on sent, voilà, que le cerveau nous dicte, hein, des gestes appris, hein, depuis notre naissance, pour passer donc du grand hall, hein, qui est ouvert à tout le monde, hein, vers les salles de réception du palais. Voilà, et l'escalier aussi, hein, c'est une chose qui permet de s'ouvrir au possible. Bon, là, c'est vrai, j'ai hésité, j'ai des tas d'images à faire voir, c'est vrai. Bon, j'aurais pu parler, effectivement, de l'escalier de la Trinité des Monts à Rome. Hein, c'est un gigantesque escalier où, finalement, tout est possible, tout est permis. Donc, il y a des gens qui draguent, il y a des gens qui jouent de la guitare, il y a des groupes de touristes qui sont perdus, il y a des gens qui racontent des histoires. Enfin, tout est possible, tout est rendu possible par l'escalier. Ça, c'est une thématique que je voudrais donc développer maintenant. Vous voyez, c'est ce qu'on appelle l'affordance, vous voyez. Hein, c'est vrai qu'il y a des... Il y a des objets, il y a des éléments, voilà, qui plus que d'autres, voyez, donc, hein, s'ouvrent à des multitudes d'usages possibles. Mais je pense que l'escalier, hein, sans doute, dans cette catégorie, hein, c'est de loin le premier. Hein. Voilà, donc une image là, qui m'a d'ailleurs été donnée par une de mes étudiantes de première année, c'est la réception du Grand Condé à Versailles. Hein, donc c'est l'escalier de Versailles, hein, mais tout d'un coup cet escalier, eh bien, il se transforme, vous voyez, donc un espace de réception, et on voit, hein, le grand Condé, hein, en bas, hein, qui monte, hein, il a gagné des batailles, hein, et donc il était exclu de la cour, et donc il peut revenir, et on voit donc sur les marches, hein, les porte-drapeaux, les soldats porte-drapeaux, hein, qui témoignent donc de ses campagnes. Et puis au milieu, donc voilà, Louis XIV, hein, qui se met en scène avec sa cour, hein, sur les marches des volées latérales et aussi, hein, donc sur les grandes, dans les grandes fenêtres des vestibules comme qui se mettent en scène, qui peuvent s'apparenter à des balcons, hein, de théâtre ou d'opéra. Mais je préfère revenir peut-être à l'architecture moderne, notamment à un mec très important, Hermann Hertzberger, qui a vraiment compris ça, puisqu'en fait, des escaliers chez lui, il y en a partout, vous voyez, dans ses maisons, il y a toujours des escaliers. Ce n'est pas du tout des escaliers qui sont fermés dans des gaines, qui sont indépendants. Ce n'est pas des escaliers lapins, pas ça du tout, comme on voit malheureusement très souvent aujourd'hui. Parce qu'en fait, il a toujours tendance, quand il fait une maison, vous voyez, à faire des demi-niveaux. Voilà. Et ces demi-niveaux, ils sont reliés par des escaliers, ce qui fait qu'il peut se passer des tas de choses, si vous voulez, voilà, dans ces espaces. Et quelque part aussi, si vous voulez, on peut dire que les maisons, ce sont des escaliers, hein, parce qu'il y a des demi-niveaux, voilà, et donc les pièces, ce sont des paliers de l'escalier. Hein. Toujours cette idée-là, vous voyez, cette idée que non, t'es pas là pour dormir, hein. Putain, t'es pas là pour t'avachir, tu vois, hein. Et donc t'es là pour te réveiller, quoi. C'est pas parce que tu es protégé dans les murs de ta maison que tu vas rien faire. Non, tu vas t'élever. Voilà. Et donc là, c'est pas une maison, ce sont des écoles, mais ce sont des écoles qui ont exactement le même principe. Bon, d'abord, ça c'est dans la cour. J'ai tenu à voir l'image parce qu'elle est assez intéressante, si vous voulez, voilà, parce que ça, elle exprime parfaitement, vous voyez, cette notion d'affordance. Vous voyez. Qu'est-ce qu'il y a ? Il y a un escalier. Et puis, bizarrement, il y a une colonne qui vient s'engastrer dedans. Et donc, on pourrait dire, mais quelle erreur, pourquoi on a mis la colonne dans l'escalier ? Et en fait, non, pas du tout, parce que le télescopage, hein, de la colonne et de l'escalier, ça permet, notamment dans une cour de récréation, hein, de multiples possibilités. Et ça, donc, c'est l'escalier amphithéâtre, hein, qui est au cœur de l'école. Voilà, comme je l'ai dit, hein, tout est sur des demi-niveaux. Et donc, sur cet escalier, effectivement, donc, il peut y avoir des cours, il peut y avoir des conférences, il peut y avoir des débats, il peut y avoir des rencontres avec les parents d'élèves, il peut y avoir des concerts, vous voyez, donc hein, tout est possible, vous voyez, donc, dans cet escalier. Et puis là encore, vous voyez, on pourrait très bien, vous voyez, considérer, voilà, les salles de cours, hein, comme les paliers, hein, qui viennent donc alimenter l'escalier. Puisque c'est une école Montessori, hein, donc, hein, où le rôle de l'enfant est central, hein, puisque l'éducateur, il n'est pas là pour dresser l'enfant, hein, mais au contraire, il est là pour l'aider, vous voyez, donc, à se développer. Et c'est vrai que toute cette école, hein, donc, elle se constitue, hein, donc, avec ces escaliers, hein, qui, donc, comme une prothèse, hein, qui permet donc à l'enfant de se développer, de s'élever. Voilà, autre exemple, très récent, puisque c'est un projet qui est en cours, c'est l'extension de l'école polytechnique à Saclay, hein, de sous Fujimoto. Et je trouve ce projet très intéressant parce que, bon, d'abord, j'ai parlé un tout petit peu de Saclay parce qu'il faut comprendre. Vous voyez, à Saclay, donc, à l'origine, c'était donc un plateau. Et puis on avait mis là-bas des équipements qui cherchaient à être complètement isolés. Donc il y avait le CEA de Saclay avec les essais nucléaires. C'était complètement, on pouvait pratiquement pas rentrer. Il y avait des tas de barrières, des policiers. Et il y avait l'école polytechnique. Et c'est pareil, quoi. On pouvait pas rentrer parce que les polytechniciens, ils n'avaient pas du tout envie de voir d'autres gens qu'eux-mêmes. Et donc ils étaient complètement enfermés, hein, dans leur petit palais qui avait été fait par Henri Potier, donc un Grand Prix de Rome, et un palais qui s'ouvrait donc sur leur lac en forme de bicorne et sur leur jardin. Hein. Et en fait, l'école polytechnique, en fait, la thématique, c'était arracher les étudiants à la ville, puisqu'avant, elle était sur la montagne Sainte-Geneviève, en plein quartier latin, et puis les mettre donc dans un château pratiquement du XVIIe siècle, revu et corrigé par un architecte moderne. Vous voyez donc dans un bois, au cœur de totalement à l'écart de la ville et du monde. En fait, les choses aujourd'hui ont complètement changé, puisqu'on s'aperçoit que quand on fait de la recherche, quand on étudie, l'important, c'est pas tant d'aller en cours, c'est pas tant de rester enfermé sur soi, c'est pas tant de rester à faire ses devoirs, à travailler. L'important, voilà, c'est de rencontrer d'autres gens. L'important, c'est de rencontrer d'autres chercheurs. L'important, c'est de rencontrer des chercheurs qui n'appartiennent pas à votre champ. Et ça s'appelle effectivement, voilà, l'autre mot savant, enfin très galvaudé quand même, après l'affordance, hein, c'est la sérendipité. Voilà. Il faut que les établissements pédagogiques, eh bien, ils provoquent, hein, de la sérendipité. C'est-à-dire qu'ils poussent les gens, non pas à s'enfermer devant le lac en forme de chapeau de polytechnicien et de se dire « je suis le meilleur », mais il faut pousser les gens à se mettre en danger, hein, et à discuter. Parce que finalement, dans le plateau de Saclay, maintenant, effectivement, tout a changé. C'est plus l'école polytechnique, c'est plus le CEA, c'est plus c'est plus EDF, c'est pas ça. Hein, l'idée, c'est qui sont effectivement sur le plateau comme des châteaux du XVIIe siècle, mais c'est faire de la ville, hein, faire en sorte que tout se croise, que tout se rencontre. Et donc, je sais que j'ai fait voir dans ce cours, quand j'ai parlé d'éducation, le projet de Ramkolas pour l'école centrale. Il y a aussi le projet de Grafton pour l'école des télécoms. Et tous ces projets, si vous voulez, voilà, ils cherchent, hein, donc au contraire à favoriser le plus possible, hein, les connexions, hein, les rencontres. Hein, l'école centrale de Ramkolas, elle est traversée par un grand passage public. L'école des télécoms de Grafton, hein, ce sont des plateaux en lévitation qui sont connectés par des escaliers où les gens travaillent. Et en fait, la majorité de l'espace, hein, c'est pas des salles de cours, c'est pas des salles où on s'isole, mais ce sont des espaces où on se rencontre. Voilà. Et donc Fujimoto, on lui a dit, mais voilà, en tant que japonais, tu vas peut-être comprendre le truc. Tu vas donc essayer de faire en sorte que cette école, qui est complètement fermée sur elle-même, eh bien, tu vas l'ouvrir, hein, sur la ville, hein, la ville des sciences, qui commence à se construire. Et donc, lui, ce qu'il a fait, effectivement, hein, il devait simplement faire des salles mutualisables, donc avec les autres équipements universitaires, mais il a fait pratiquement donc que des escaliers. C'est-à-dire que la moitié du projet sont des salles mutualisables qui étaient demandées par le programme, et l'autre partie, hein, ce sont des escaliers, hein, qui sont jetés dans toutes les directions, vous voyez, comme des amarres, comme des liens, hein, pour arriver donc à capter les autres étudiants et les faire monter dans les salles. Mais aussi, vous voyez, pour faire en sorte que ces étudiants, même s'il n'y a pas de chaises, ils puissent s'asseoir, se rencontrer. Même si toutes les salles sont fermées, ils peuvent discuter, ils peuvent dialoguer. On peut imaginer, effectivement, improviser des concerts, improviser des cours. Parce qu'effectivement, ces escaliers, voilà, comme on l'a vu, ce sont soit des escaliers qui ne permettent que de monter, hein, soit des escaliers donc, qui définissent avec des hautes marches, hein, de plus de 32 cm, hein, qui peuvent toujours être montées, mais qui peuvent surtout, sur lesquelles on peut surtout s'asseoir, et s'asseoir donc, voilà, pour faire des tas de choses, mais surtout, voyez, pour favoriser, hein, au plus haut point la rencontre, voilà, l'ouverture à l'autre, voyez. Voilà, s'élever. On a vu effectivement, voyez, la Vierge Marie qui s'élève seule, et là, au contraire, hein, c'est le groupe, hein, qui doit donc, hein, s'élever. D'ailleurs, élever, vous savez, je préfère C'est peut-être plus intéressant comme mot que éduquer. Donc, éducare, c'est encore aussi intéressant. Ou enseigner, voilà, élever, voilà, on élève. Hein, c'est-à-dire qu'on permet donc aux gens hein, de s'élever. Et là, effectivement, hein, les étudiants, eh bien, ils s'élèvent non pas tout seuls, hein, comme dans l'escalier de Faustino, pour sauter ensuite désespérément hein, pour atteindre le ciel. Non. Ils le font en groupe. Et comme on le voit sur le plan, vous voyez, donc, la moitié de l'espace, hein, ce sont des espaces de circulation. Et ces espaces de circulation sont encore doublés hein, par des circulations extérieures, hein, des escaliers qui sortent du bâtiment hein, pour venir donc, chercher donc, les étudiants et les faire rentrer hein, dans cette école qui avait été si longtemps fermée sur elle-même. Voilà la coupe. Et on voit très bien là, voyez, l'importance hein, des espaces de rencontre. Et là, voilà, on voit très bien aussi donc, voyez, l'affordance, hein, c'est-à-dire effectivement tout ce qu'on peut faire sur l'escalier. Voilà, on peut s'asseoir, on peut bavarder, on peut téléphoner, on peut se reposer, mais on peut aussi donc, discuter, faire des cours improvisés ou des concerts improvisés. Tout ça, effectivement, et essayer de faire en sorte de faire tomber un petit peu les limites. Il n'y a pas de, il y a pratiquement pas de mur. Hein, c'est juste donc un mur rideau de verre. Et puis la végétation qui est à l'extérieur, on la retrouve à l'intérieur. Hein, vous voyez, comme si l'architecture, c'est simplement ça. Vous voyez, comme le travail de mon étudiant tout à l'heure. Voilà, un réseau d'escaliers hein, qui se croisent et qui dessert des plateaux hein, surélevés. Voilà, et ça c'est le bâtiment en chantier, donc il devrait être livré au mois de juin. Voilà, j'ai beaucoup parlé de Tour de Babel, c'est vrai que ça me plaît les Tours de Babel, c'est vrai. Mais ça pèse, c'est lourd, vous voyez. C'est lourd, et d'ailleurs, Athanasius Kirchner, le savant, je crois jésuite, qui avait fait le dessin de la Tour de Babel que j'ai fait voir en introduction, il s'était beaucoup posé de questions, cette tour de Babel, et il s'était aperçu que finalement, la tour de Babel, ça ne pouvait pas marcher, quoi, parce que si on la construisait, eh bien, finalement, elle devenait tellement lourde qu'elle finissait par dévier la trajectoire du globe, et donc elle ne menait nulle part. C'était un projet complètement vain. Enfin, c'est une preuve pas l'absurde, mais c'est quand même intéressant, c'est oui, cette idée de lourdeur. Et en fait, dans l'escalier, il peut y avoir une autre légende, vous voyez, un autre mythe hein, qui permet donc d'envisager au contraire la légèreté. Voilà, hein. Voilà, c'est Jacob. Jacob, là, il est endormi dans le désert, il est fatigué, il a des problèmes avec ses frères, et en fait, il rêve que malgré tout, même si c'est très dur, hein, eh bien, il y a un lien, il y a une échelle là, qui monte directement hein, de la terre vers le ciel. Une échelle qui est constamment empruntée par des anges. Voilà, là on voit maintenant, hein, pas Jacob, mais les étudiants de l'ENS de Saclay, voilà, qui sont allongés, voilà, qui sont allongés dans le parc que leur a dessiné Renzo Piano et Pascal Cribier, voilà. Et autour de, c'est un parc protégé, voilà, par des constructions. Et dans l'aile la plus importante, celle qui est au fond sur l'image, voilà, au premier étage, il y a un gigantesque atrium, voilà. Et un gigantesque atrium où tous les laboratoires communiquent, que ce soit des laboratoires de linguistique, des laboratoires de physique nucléaire, tout communique, voilà. Et ces laboratoires, voilà, ils sont accessibles, non pas par des échelles, hein, mais par des escaliers qui sont suspendus à la structure. Et ça, je vais l'expliquer, c'est un véritable tour de force, voyez. Parce que l'escalier, il n'est pas posé au sol. Enfin, il y a une accroche, mais je vais parfaitement l'expliquer. Et c'est un truc qui est fou, parce que ça a vraiment été pensé jusqu'au bout, hein, pour que l'escalier ne repose pas sur le sol, mais au contraire, donc soit suspendu, et en plus soit suspendu à des éléments très fragiles, parce que l'escalier, il est suspendu aux fermes métalliques de la verrière, et comme vous pouvez le voir, les fermes métalliques de la verrière sont très fines, et les fermes métalliques de la verrière, qu'elles soutiennent ou non les escaliers, ont exactement la même épaisseur. Donc je vais expliquer tout ça. Voilà. Et en plus, c'est vrai que l'image, c'est pas le projet réalisé, c'est une perspective. Vous voyez, on voit aussi des anges, puisqu'on voit, un satellite, là, un Spoutnik, je sais pas quoi. Vous voyez, donc on est là-dedans. Il y a ceux qui dorment et qui rêvent dans le jardin, mais dans le bâtiment, effectivement, donc il y a une échelle de Jacob où on peut monter, où effectivement, voilà, tous les savoirs peuvent rentrer donc en synergie, et les escaliers qui les soutiennent. Voilà, il n'y a aucune dramaturgie comme toujours chez Piano. C'est un type, il n'est absolument pas dramatique. Tout est clair, tout se dénoue. Voilà, c'est vraiment le penseur, du milieu le plus favorable au développement humain, un milieu, voilà, de toute tragédie, de toute dramatisation. Et donc c'est vrai que la tour de Babel, si vous voulez, c'est quand même une histoire qui est relativement négative, puisque effectivement la population qui l'a créée, enfin, qui a cherché à la créer, voyez, d'une manière très presque un peu bestiale, vous voyez, en accumulant de la matière, eh bien c'est finalement dispersé parce qu'elle ne parlait pas la même langue. Là, vous voyez, il n'y a pas du tout de matière. Et les scientifiques, ils ne parlent pas la même langue, parce que le vocabulaire d'un scientifique qui fait de l'astrophysique et celui qui fait de la biologie, c'est pas le même. Mais ils arrivent, ils sont quand même reliés. Voilà. Ils sont quand même reliés. Voilà, ça c'est le grand hall, l'atrium, hein, de l'école normale supérieure. Et on voit les escaliers sur la coupe, hein, qui sont accrochés à la verrière. Là, c'est la longueur, vous voyez, on voit sur la coupe longitudinale, hein, la longueur de cet atrium. Et là, vous voyez, on voit la coupe avec les escaliers. Alors, je ne sais pas si on le verra bien tout à l'heure, parce qu'en fait, si vous voulez, vous voyez, les escaliers, voilà, ils sont suspendus toujours aux fermes de la verrière. Mais en fait, voilà, comme ils ne peuvent pas solliciter une seule ferme, ou alors il aurait fallu que la ferme soit beaucoup plus importante que les autres, eh bien, il y a une poutre qui va à chaque fois relier trois fermes, et qui va permettre donc aux trois fermes de soutenir l'escalier. Parce que l'escalier, il tient que par le haut. Là, il est arrimé, vous voyez, donc au niveau des coursives. Et après, je vais bien expliquer, il est aussi arrimé par au sol. Il est arrimé, mais il ne repose pas. Vous voyez, on le voit là, enfin, c'est compliqué, bien sûr, parce que l'escalier, la dernière marche, elle ne touche pas le sol, elle reste comme ça. Mais si elle restait comme ça, ça bougerait, voilà, comme ça, ça bougerait. Donc tout vibrerait. Donc il faut quand même l'arrimer. Et donc cette pièce qu'on voit ici, vous voyez, cette platine, hein, qui permet donc d'arrimer l'escalier, hein, pour l'empêcher de vibrer quand les gens montent ou courent dedans, mais sans le porter. Voilà. Mais tout ça, tous ces dessins, hein, c'est uniquement pour ça, hein, pour avoir donc un escalier, voilà, très léger, hein, parfaitement suspendu. Hein, donc, il y a des architectes et des architectes qui ont travaillé donc jour et nuit, vous voyez, pour mettre au point cet élément, pour faire en sorte que effectivement, voilà, l'escalier ne repose pas, ne se fonde pas, hein, comme la tour de Babel, mais soit accroché au ciel, hein, comme l'échelle de Jacob. Voilà les câbles qui maintiennent l'escalier. Et là, vous voyez, on voit, hein, les poutres, hein, on voit les câbles qui aboutissent aux poutres, et les poutres, hein, qui solidarise trois fermes, hein, pour qu'elles puissent porter, hein, le poids supplémentaire de l'escalier sans être plus épaisse que les autres. Autre exemple d'escalier qui est suspendu, c'est totalement différent, c'est le Pierre Ebelink, c'est un Belge vallon, à Liège, pour un immeuble de bureau qu'il a réhabilité. Il a réhabilité l'immeuble de bureau, il a enlevé toutes les briques, il a tout récuré, il a laissé simplement la structure en métal. La structure en métal n'apparaissait pas, et lui, il a fait apparaître. Et donc, dans une travée, bon, dans les trois travées, ou les quatre travées de gauche, ce sont simplement des plateaux de bureau. Et ensuite, sur une travée, donc, c'est un escalier. Et l'escalier, là encore, vous voyez, il est suspendu ou posé sur la structure, mais il ne touche pas le sol. Et c'est vrai, cet escalier, c'est comme des pièces, vous voyez, comme des coques de bateau. Et c'est presque quelque chose qui a plus trait avec les chantiers navals qu'avec... Avec les entreprises de construction. Mais il faut dire aussi que, bon, malgré tout, il y a un passé industriel très important en Belgique qui a su être exploité par Pierre Ebeling. Et donc, c'est vraiment des pièces, vous voyez, industrielles qui viennent ensuite donc, se glisser dans la structure décapée de l'ancien bâtiment et qui sont suspendues. Vous voyez, l'escalier, il est surélevé, il ne touche pas le sol. Et là, on voit très bien que tout est... les garde-corps, ce ne sont pas des garde-corps, ce sont des poutres qui permettent de maintenir les marches. Tout est soudé. Voilà. Et tout ça, ça a été amené par des grues ou soudé sur place. Et c'est venu donc s'immiscer dans la structure. Et ça ne vient surtout pas toucher le sol. Et bien sûr, c'est l'espace, effectivement, où les gens se rencontrent. C'est un bâtiment de bureau, mais personne ne prend l'ascenseur. Et tout le monde passe, s'interpelle, voyez, donc, dans ces escaliers en suspension dans l'espace. Mais on va revenir à Babel pour terminer, parce que quand même, c'est quand même fascinant, cette tour. Voyez. Voilà, cette tour de Bruegel. Voilà, on voit très bien donc, la rampe ou l'escalier hélicoïdal qui entoure le bâtiment. Et puis on voit les murs de soutènement voilà, qui sont faits uniquement pour porter les étages supérieurs et qui contiennent rien, aucune pièce, rien. Tout est fait pour monter, tout est fait aussi pour que l'escalier voilà, puisse s'édifier sur lui-même pratiquement à l'infini. Et là, c'est un bâtiment de Rem Koolhaas. C'est l'ambassade des Pays-Bas à Berlin. Et c'est vraiment extrêmement intéressant, justement, la manière dont il a traité l'escalier, ou plutôt les circulations verticales, parce que dans ces circulations, il y a à la fois des rampes, il y a à la fois des escaliers, il y a à la fois des coursives. Mais voyez, voilà, au lieu de mettre battements, les escaliers dans un noyau. Bon, bien sûr, il y a des noyaux d'escaliers, c'est pratiquement obligatoire. Les pompiers l'obligent. Ce sont les escaliers de secours. Et par contre, l'escalier, lui, il est vraiment traité de manière privilégiée. Puisque, vous voyez, au lieu d'être confiné à un espace particulier, eh bien, il s'enroule autour du bâtiment. Voilà, comme on le voit sur l'image ici. Vous voyez, c'est une maquette qui présente donc l'escalier. Vous voyez, la boîte de verre, ça correspond donc à la partie construite du bâtiment. Donc, cette boîte de verre, il faut l'imaginer, remplie de salles, de bureaux, de salles de réunion, de salles d'exposition. Et puis, on voit donc l'escalier qui chemine là-dedans, qui traverse les espaces. Et effectivement, voilà, l'escalier, c'est à la fois, voyez, l'espace de réception, comme on l'a vu dans la toile, un représentant Condé devant Louis XIV, mais c'est aussi donc un espace de sérendipité, comme on l'a vu donc chez Su Fujimoto. Voilà, voyez, l'escalier qui traverse le bâtiment, et puis qui donne parfois par d'autres escaliers, parce que c'est un travail de calage extrêmement complexe, vous voyez, d'avoir non pas un noyau central avec des paliers qui dessert des plateaux, mais d'avoir effectivement un escalier qui s'enroule comme ça et qui doit desservir des plateaux qui sont à des niveaux différents. Voilà, ça c'est la montée de l'escalier. Là aussi, l'escalier il est fait aussi en fonction du contexte, puisque c'est la tour de la radio et de télévision d'Alexanderplatz, qui détermine sa position. Voilà, ils ont, pour dessiner l'escalier, ils ont fait un schéma où on voyait la tour, et ils ont creusé le bâtiment pour que l'escalier puisse peut-être, là encore, voyez, servir, avoir le rôle presque d'une fenêtre, voyez, qui cadre. L'escalier permet de cadrer des éléments importants. Mais comme ça permet de lister finalement hein, tout ce dont est capable un escalier. Hein. C'est une porte, bon, hein, on l'a vu avec Fujimoto, hein, ça permet de passer d'un monde à l'autre, mais c'est aussi une fenêtre, hein, comme ici, hein, puisque ça permet donc de cadrer donc un des éléments essentiels du paysage. Ça permet de relier l'Est à l'Ouest, hein, voyez, en mettant en exergue donc, cette tour soviétique d'Alexanderplatz. Voilà, là il devient rampe, il est en porte-à-faux, il est vitré. Et après, vous voyez, il rentre dans le bâtiment, il traverse les salles. Voilà. C'est vraiment quelque part, les salles, c'est presque des espaces, résiduels. Voilà, les salles sont presque des espaces résiduels. Hein, c'est l'escalier, c'est l'escalier qui prime, vous voyez, c'est la forme de l'escalier qui prime. Bon, l'escalier, bien sûr, ça permet de voir à l'extérieur, mais ça permet aussi, vous voyez, de voir à l'intérieur, hein, de se voir travailler, hein, de se voir soi-même. Et on revient sur l'image de base, hein, la présentation de Marie au temple. Voilà, j'espère que maintenant, cette image, vous la voyez peut-être différemment. Et surtout, j'espère que quand vous rentrerez chez vous, vous verrez différemment, vous voyez, tous les escaliers que vous allez emprunter. Merci.